Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Patience Ngalula Banangi. Au sommaire, FRDC et M23 respectent la trêve humanitaire des deux semaines annoncée par les États-Unis. Jusqu'à ce dimanche, aucun combat n'était signalé depuis vendredi minuit au Nord Kivu. Entre les deux parties dans les petits nord, l'armée et les rebelles maintiennent toujours leurs positions initiales. Soupçon de détournement de 3 millions de dollars par quelques anciens membres du bureau du Sénat, les ministres de la Justice et garde des Sceaux instruisent la police judiciaire des parquets de diligenter en urgence une enquête judiciaire. Il s'agit d'un communiqué de son cabinet publié hier à Kinshasa. L'invité de ce soir est Samuel Donkatembo Sekanabo, président du Parlement des jeunes de Béni. Il invite toute la population à s'approprier la lutte contre la désinformation qui est l'un des facteurs favorisant la vindicte populaire à Béni. Bonsoir à toutes et à tous. Au Nord Kivu, la trêve humanitaire des deux semaines annoncée par les États-Unis est en vigueur depuis vendredi à minuit, semble respectée jusque-là par le FRDC et les rebelles du M23. Cette trêve vise à soulager les souffrances des populations vulnérables et à créer les conditions d'une désescalade plus large des tensions dans l'est du pays. Martial Papi Mukeba pour les détails.
Jusqu'à ce dimanche, aucun combat n'était signalé depuis vendredi minuit entre les FRDC et M23 au Nord Kivu. Dans le Petit Nord, l'armée et les rebelles maintiennent toujours leur position initiale. C'est notamment sur l'axe Goma-Sake-Minova, territoire de Masisi, où les rebelles occupent toujours la zone située entre Kiroche et Chacha, le long de la route nationale numéro D. Même chose pour une grande partie de l'est du territoire de Masisi, la quasi-totalité du territoire des Rutshuru et les groupements de Kibumba et Buhumba dans les territoires de Nyiragongo. Au Grand Nord, les positions avancées des FRDC et du M23 sont séparées d'environ seulement 1 km à Matembe. C'est dans cette localité située à 80 km de Lubero Centre que se sont déroulés les derniers affrontements entre les deux belligérants il y a quelques jours. Depuis vendredi, il n'y a pas eu de nouveaux combats, mais des sources sécuritaires parle d'un renforcement en troupes et matériel par les rebelles du M23 dans la zone. Plusieurs humanitaires ont déjà quitté les territoires de Lubero à la suite de l'insécurité. Béni, Martial Papi Mukeba, Radio Kapi.
Restons au Nord Kivu. La société civile de la ville de Béni appelle la population à mettre fin à la pratique de vindicte populaire et à ne pas s'attaquer aux biens des particuliers à Béni, Butembo et Lubero. Cette structure citoyenne joint sa voix à celle des autres organisations et notables de la région en ces moments où des groupes de jeunes s'en prennent aux individus et à leurs biens depuis l'occupation par le M23 de certaines cités du territoire de Lubero. Dans une déclaration publiée hier samedi, la société civile de Béni parle d'actes qui favorisent les jeux de l'ennemi. On écoute son président Pépin Kavota dans ses propos recueillis par Martial Papi Mukeba.
Très chers tous, ne tombons pas dans le jeu de l'ennemi sans le savoir. Nous ne devons pas oublier que parmi les richesses de notre patrie, nous avons aussi les différentes tribus qui la constituent. Soyons unis et dénichons les suspects auprès des services étatiques. Vu la situation sécuritaire très critique dans nos entités respectives, nous avons l'obligation de rester unis et solidaires à vue d'une résilience réussie et surtout ne cédons pas aux manipulations et à la haine distillée savamment par l'ennemi pour gagner du terrain. Les communications qui circulent sur les réseaux sociaux il y a peu et leur cohorte de dramatisation risquerait de nous diviser inutilement. Nous devons nous interdire, très chers tous, de nous attaquer aux humanitaires, aux personnes et à leurs biens, mais aussi et surtout aux FRDC.
Toujours au Nord Kivu, en formant les enfants et orphelins des militaires et policiers, l'Université des martyrs du Congo contribue à l'effort des guerres dans cette zone des conflits armés. Déclaration hier samedi du colonel Job Alissa, professeur et secrétaire général à la recherche de cette institution universitaire basée à Goma. Il l'a dit après la rencontre vendredi à Kinshasa du conseil de gestion de son institution et l'actuel ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Les professeurs se réjouissent de la promesse du ministre d'accompagner leur vision. Job Alissa au micro de Bernard Nyangi.
Elle a félicité les efforts laissés par son prédécesseur. En ce sens, elle a salué les particularités de l'Université des martyrs du Congo et a promis d'accompagner les objectifs de cette université, surtout les enseignements, l'émergence et la promotion éducative des enfants des militaires. Elle a aussi encouragé et féliciter cette coopération entre l'Université de Gaoundéré du Cameroun et l'Université des martyrs du Congo dans le cadre de la formation doctorale de nos enseignants. Elle a ajouté aussi que c'est une université qui immortalise les martyrs de la République des martyrs du Congo et elle serait contente de voir fonctionner cette université dans toutes les provinces pour approcher toutes ces catégories des enfants des militaires, étant donné que l'Université des martyrs du Congo est nationale.
Dans les territoires de Djougou, en Ituri, les FRDC et la MONUSCO ont lancé depuis une semaine des opérations militaires contre les groupes armés Zaïre et Codeco réfractaires au processus de paix dans les secteurs des Banyalikilo. Certains villages sont déjà passés sous les contrôles de l'armée qui affirme avoir détruit des bastions de ces groupes armés. Les notables et autorités coutumières demandent au gouvernement et son partenaire d'étendre ces opérations dans toute cette entité minière qui sert de source des ravitaillements à ces groupes armés. Isaac Remoyopi.
Ces opérations militaires dénommées Northern Scalpel ont été lancées le 29 juin dans le secteur des Banyalikilo contre les groupes armés Zaïre et Codeco. Elles ciblent les miliciens qui ne respectent pas les différents actes d'engagement signés pour la cessation définitive des hostilités en Ituri. De nombreux militaires sont déployés dans la région avec l'appui de la MONUSCO. La première phase a ciblé la localité de Mandobo, bastion des Zaïre qui s'est retiré sans combat. Ces forces ont poursuivi les opérations dans les localités occupées par la Codeco, notamment Itende et l'ICI, l'une de ses plus grandes bases opérationnelles qui a été bombardée par des hélicoptères des FARDC. Une dizaine de miliciens ont été neutralisés et trois militaires et un civil blessés. Plusieurs armes ont par ailleurs été détruites. Dans leur fuite, ces miliciens à débandade ont tué 6 Chinois mardi à Abombi et 6 autres personnes brûlées dans leur maison vendredi à Beba. Les autorités coutumières locales encouragent l'option militaire car selon elles, l'approche des dialogues communautaires a montré ses limites. Elles demandent au gouvernement d'être intensifier ses opérations dans tous les 13 groupements sur les 15 occupés depuis environ 5 ans par ces hommes armés. De son côté, le porte-parole de l'armée en Ituri rassure la population que ces opérations vont se poursuivre. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Soupçon de détournement de 3 millions de dollars par quelques anciens membres du bureau du Sénat, les ministres de la Justice et gardes des Sceaux instruisent l'inspecteur général de la police judiciaire des parquets à diligenter en urgence une enquête. Dans un communiqué signé ce week-end par son directeur de cabinet, le ministre d'État Constant Mutamba affirme rester saisi des soupçons des scandales financiers qui pèseraient sur certains anciens membres de l'ancien bureau du Sénat. Le président intérimaire du bureau sortant du Sénat accuse les bureaux d'âge d'avoir détourné cette dotation des fonds spéciaux d'intervention alors que celui-ci dit n'avoir trouvé aucun fonds dans la caisse du Sénat. Michel Kifindangoy.
L'instruction du ministre de la Justice d'ouvrir une enquête vient confirmer la rumeur de détournement des fonds publics au Sénat. Cette rumeur est partie de la lettre de l'ancien président du bureau, adressée le 1er juillet à l'IGF, dans laquelle Sangou Mutomongonde accuse le bureau provisoire d'être à la base d'un présumé détournement de 3 millions de dollars, pourtant consigné dans le procès verbal de remise et reprise du 17 mai. Rejetant en bloc toutes ces accusations, le président du bureau d'âge l'otage affirme dans un communiqué n'avoir trouvé aucun dollar dans les caisses du Sénat. Pascal Kindwelo dit par contre avoir hérité jusqu'à 3 millions de dettes du bureau sortant. Toutefois, certaines sources accusent le président intérimaire sortant d'avoir retiré une somme de 750 000 dollars 11 jours après la remise et reprise avec le bureau d'âge. Ce que reconnaît dans son tweet du 5 juillet Sanguma Tomongone, qui dit avoir retiré cet argent pour payer à certains anciens sénateurs. Face à cette confusion, le ministre de la Justice Constant Mutamba exige une enquête. La CAJ soutient l'interdiction de quitter le territoire national contre toute personne impliquée.
Politique dans ce journal, la Fédération provinciale du mouvement social pour les renouveaux, MSR Maniema, appelle à l'implication du chef de l'État congolais dans l'affaire des détournements des fonds alloués au projet des forages et lampadaires à Kinshasa. Dans une sortie médiatique ce samedi, le secrétaire exécutif fédéral du MSR Maniema plaide pour l'équité de la justice congolaise tout en exigeant la mise en liberté provisoire de François Rubota Masumbuko en attendant les retours au pays de l'ancien ministre des Finances, acteur principal selon eux dans cette affaire. On écoute Yuma Busangu, grand format, secrétaire fédéral du MSR Maniema, dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
La fédération du MCR Maniema se sent offusquée et estomaquée par une justice variante et à double vitesse, utilisant notre autorité morale comme matériel didactique dans un état de droit qui tarde à produire ses effets. Par ailleurs, l'évidence de l'existence d'une correspondance du ministre honoraire du développement rural demandant la surséance des décaissements par l'excellence ministre des Finances auprès des prestataires, tant que le résultat attendu n'était pas atteint, ne fait plus de lui l'incriminé principal dans cette affaire. Dès lors, le ministre honoraire du développement rural n'avait plus jamais été consulté par l'excellence ministre des Finances dans les opérations de décaissement. Tenant compte de ça, la fédération du MCR Maniema demande aux instances politiques, judiciaires et sécuritaires la relaxation du ministre honoraire François Rubota Masumbuko par sa mise en liberté provisoire en attendant le retour à tout moment de l'excellence ministre des Finances Nicolas Kazadi.
Et puis, Léo Katanga connaît depuis ce samedi son gouvernement. Il compte 10 ministres provinciaux. Sur les 10, 9 ont fait partie de l'équipe rendue publique il y a plus d'une semaine et qui était composée aussi des 10 commissaires généraux, ce qui avait valu la convocation du gouverneur Jacques Kiaboula à Kinshasa par les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, car cela n'est pas conforme à la Constitution. Cette équipe a 2 femmes, dont celle en charge du genre, famille et enfants. Cette dernière nouvellement venu était juste avant sa nomination journaliste à la RTNC station du Haut-Katanga. Ici à Kinshasa, les enseignants du secteur public et privé de l'éducation nationale ont dressé ce samedi un bilan mitigé de l'année scolaire 2023-2024. Ils l'ont fait au cours de l'Assemblée générale ordinaire de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC tenue à Kinshasa. Pour rectifier les tirs, ces professionnels de la CRE recommandent au gouvernement souminois de convoquer les assises sur la politique salariale avant la rentrée scolaire prochaine. Ils ont également plaidé pour la réforme en matière des rémunérations dans l'administration publique et dans l'enseignement pour restaurer la confiance entre gouvernants et gouvernés. Écoutez les porte-parole de cette synergie, Jean Bosco Puna, dans cet extrait choisi par Blaise Ndongala Mayanda.
Il faut noter que on a assisté à des graves dysfonctionnements dans la gestion de ce sous-secteur par l'ancien ministre de l'EPST. La synergie des syndicats des enseignants interpelle Madame la Première ministre, chef du gouvernement, à s'investir conformément aux recommandations du Conseil des ministres pour convoquer les assises sur la politique salariale avant la rentrée scolaire prochaine. La synergie des syndicats des enseignants de la RDC, une fois de plus, rejette les accords de Bibwa qui ne garantissent aucune sécurité sociale aux enseignants et aux agents publics de l'État en général. La réforme en matière de rémunération dans l'administration publique et dans l'enseignement est la seule voie pouvant restaurer la confiance entre gouvernants et gouvernés.
Retournons dans la province du Haut-Katanga, cette fois dans la ville de Kasumbalesa, en voie de modernisation. Et pour ce faire, elle recourt à l'expertise de l'Université de Lubumbashi. Vendredi dernier, les deux entités ont signé un partenariat pour la production d'un plan d'aménagement répondant aux normes urbanistiques modernes. D'autres détails avec André Kapampa, maire de Kasumbalesa, qui est au micro de Jean Gandou.
Nous avons, nous, ville de Kasumbalesa, signé un partenariat dans le cadre de l'approche ville-université telle que voulue par la plateforme des autorités locales des pays des Grands Lacs, PALPGEL, dans laquelle l'organisation sous-régionale la ville de Kasumbalesa est membre. Et donc, au travers elle, l'Association internationale des maires francophones nous a amené l'Union européenne comme partenaire financier pour que, avec ce financement, l'Université de Lubumbashi mène les études préalables, de sorte que nous puissions arriver à produire un plan d'urbanisation sur une concession de 140 km² de surface pour l'érection d'une nouvelle ville, laquelle ville devra être une ville résiliente, une ville verte, une ville durable, une ville qui respecte les normes environnementales et laquelle ville devra aussi être touristique. C'est au bénéfice de cette population de Kasumbalesa, de la province, de la République et d'ailleurs, pour que nous léguions à la postérité une ville répondant aux standards qui va devoir développer les secteurs aussi bien économiques, sociaux, touristiques et j'en passe les meilleurs.
Actualité internationale.
Ouverture du sommet de la CEDEAO précédé par un huis clos. Le 65e sommet de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est ouvert ce dimanche 7 juillet à Abuja, au Nigeria. La conférence a commencé par un huis clos. La cérémonie s'est ainsi ouverte avec un retard de 2 heures. Ce sommet de la CEDEAO se déroule après celui de l'Alliance des États du Sahel, AES, qui a débouché sur la création d'une confédération Burkina Faso, Mali, Niger, qui s'est tenu la veille, le samedi 6 juillet.
L'invité.
Notre invité est le président du Parlement des jeunes de la ville de Beni au Nord Kivu. Samuel Donkatembo Sekanabo pense qu'il est urgent que toute la population s'approprie la lutte contre la désinformation. En l'espace d'une semaine, on estime à une quinzaine le nombre de personnes qui ont perdu la vie dans la région de Butembo et Lubero à la suite de la vindicte populaire consécutive aux fausses rumeurs. Comment faire pour amener les populations à s'approprier la lutte contre ces fléaux? Quelle stratégie utiliser pour sensibiliser les communautés au danger de la désinformation? Samuel Donkatembo Sekanabo répond à toutes ces questions dans cet entretien avec Guylaine Kassassia.
Donkatembo Sekanabo, bonjour.
Et bonjour, merci.
Que vous inspirent les récents incidents de Butembo et Lubero où des dégâts matériels et humains ont été enregistrés la semaine dernière avec un hôtel vandalisé, de véhicules d'une ONG internationale incendiés, de civils et militaires de FARDC tués par la justice populaire à cause de fausses rumeurs?
Nous sommes désolés de la situation qui se passe dans notre zone, d'autant plus qu'il y a l'M23 qui progresse, mais aussi nous, étant que population, nous sommes en train de dramatiser beaucoup de choses. Bien sûr, l'ennemi avance et nos militaires sur la ligne de front en train de faire ce qu'ils sont en train de faire. Et nous, maintenant, dans la communauté, nous nous donnons à une désinformation comme pas possible. Si Butembo a été victime des attaques de l'hôtel Believe, les véhicules d'une organisation internationale les incinérés naturellement, c'est parce qu'il y a juste une désinformation. Les gens ne savent pas sur ce dans quoi. Et tout ça, c'est parce que peut-être l'État congolais n'a pas su bien communiquer avec la population, essayer de donner la bonne version de tout ce qui se passe. Et maintenant, on laisse à la rue de communiquer. Et là même, l'ennemi peut profiter pour communiquer juste lorsqu'il y aura incendie, lorsqu'il y aura déjà des hôtels vandalisés, les gens ont perdu leur vie. C'est déjà l'actif pour l'ennemi.
Alors, les médias sociaux font partie des acteurs de la désinformation. Que faites-vous en tant que responsable d'une structure des jeunes pour changer la donne? Étant donné que ces médias en ligne, mais aussi les groupes WhatsApp sont gérés en majorité par des jeunes.
Jusque-là, nous, dans notre manière de faire, nous sommes en train de lutter contre la désinformation dans toutes ses formes, mais surtout dans les groupes là que nous sommes. Nous avons fini la télé de la désinformation il y a peu. Nous continuons à sensibiliser. Pour votre information, nous projetons une activité la semaine prochaine à Butembo, où nous allons voir les responsables des organisations de jeunes à la ville de Butembo. Nous allons essayer de leur former sur la lutte contre la désinformation. l'information sur les réseaux sociaux, la manipulation, parce que tout ce qui se passe est que les gens n'ont pas su gérer leur groupe WhatsApp. Or, le code du numérique punit des publications incitant à la haine. Et nous continuons toujours la vulgarisation du code du numérique, mais aussi la formation dans des groupes spécifiques par rapport à la désinformation dans des réseaux sociaux. Et nous demandons à tous les administrateurs de groupes WhatsApp qu'ils puissent mettre de l'ordre dans leur groupe.
Mais comme vous venez de le dire, en dépit des efforts fournis par la MONUSCO et d'autres partenaires pour lutter contre la désinformation et les discours de haine à travers l'organisation de sensibilisation et de formation dans la région de Beni, Boutembo et Loubero en proie aux atrocités, que faudrait-il encore faire de plus pour changer la mentalité de la communauté, surtout celle des jeunes?
D'abord, la jeunesse doit comprendre que tout ce que nous faisons, nous en sommes responsables aujourd'hui, même dans le futur. Et nous encourageons tous les partenaires qui sont en train de mettre l'accent sur la désinformation. Encourageons la MONUSCO pour sa manière de travailler avec la communauté pour l'appuyer de la informations, mais ce qui reste encore à faire, c'est élargir la zone. Vous savez, lorsqu'on forme sur la désinformation, c'est peut-être une minorité des gens qui profitent de cette formation. D'autres ne bénéficient pas directement. Donc, nous demandons à tous les partenaires d'accompagner encore une fois les actions visant à lutter contre la désinformation pour que notre zone soit écartée du risque de la désinformation. Mais aussi, nous, acteurs utilisant des réseaux sociaux, comportons-nous aussi responsables.
Peut-être pour finir, à part l'organisation des sensibilisations et des formations, quel autre canal on peut encore utiliser?
Ce qu'on peut encore utiliser, c'est les médias professionnels. Vous savez, d'abord, le groupe WhatsApp ici nous cause beaucoup de difficultés. Tout celui qui y publie n'est même pas journaliste. Et tout celui qui va lire se donne aussi l'audace de partager. Il partage des choses sans vérifier. Et c'est ainsi que nous appelons, à part la formation qui se passe dans des groupes spécifiques, les radios et les télévisions, mettez aussi des programmes de lutter contre la désinformation. Surtout pendant ce temps des vacances. Les enfants ont tout le temps de suivre les radios, ont tout le temps de suivre la télévision. Les responsables des ménages, les parents, peuvent ne pas peut-être connaître la matière sur la désinformation, mais qu'ils mettent d'abord à tête et cœur. Si vous dites à votre enfant que si vous publiez une chose, ça vérifie et que l'État tombe sur vous, vous serez puni. Nous pensons que juste ça, ça va juste aider la population de comprendre que tout ce que nous faisons, ça peut nous créer des difficultés un jour dans la vie.
Monsieur Do Katembo Sekanabo, merci.
Amadou, vous remercier.
Et c'est la fin de ce journal. Mise en onde signée Alain Goy, supervision et coordination Alain Irung Mouchinge, à la présentation Patience Ngalou Lambombo. Merci à toutes et à tous de nous avoir prêté oreille attentive.